Robert Cialdini, influence et manipulation, l'art de la persuasion. Robert Cialdini, né le 27 avril 1945, est un psychologue social américain. Il est surtout connu pour son livre traitant de la persuasion et du marketing, édité en France sous le titre « D'influence et manipulation ». Chapitre 1 – Les armes de l'influence. 6 catégories des principes du consentement sont la cohérence, la réciprocité, l'autorité, la sympathie et la preuve sociale, la rareté, la loi de l'intérêt, qui consiste à avoir le maximum à moindre coût. Il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus. Pour obtenir quelque chose, il faut une raison. Demander quelque chose avec « parce que » donne 94% de consentement. Exemple, je peux avoir ton stylo parce que le mien est en réparation. Vous offrira 94% de consentement par rapport à une phrase « je peux simplement avoir ton téléphone » qui aura 60% de consentement. Dans l'inconscient collectif, un prix élevé est gage de bonne qualité et donc jouer là-dessus. Pour éviter de se faire escroquer, maîtrisez chacun des éléments indicatifs de la valeur du produit. Exemple pour le parfum, mieux vaut s'intéresser à sa composition, s'il y a plus d'essence, de fleurs ou d'éléments naturels que de produits synthétiques ou de saveurs chimiques de la fleur en question. La civilisation progresse par l'augmentation du nombre d'actes que nous sommes capables de faire sans y penser. Voyons maintenant le principe de contraste. Cela consiste à faire provoquer une émotion négative avec un prix élevé ou une présentation repoussante, puis de provoquer une émotion de soulagement par un prix ou une présentation agréable. Exemple 1. Dans un magasin, un client se présente et demande le prix d'un produit à un vendeur. Le vendeur simulera une sourdité, le rôle d'un malentendant, et demandera à son client à combien est le produit. Son collègue répondra 41 euros. Le vendeur numéro 1 répondra 21 euros en simulant d'avoir mal entendu, et ainsi le client appréciera le fait que le prix ait été baissé. Exemple 2. Si nous soulevons un objet léger puis un objet lourd, nous trouverons le deuxième objet plus lourd que si nous n'avions pas soulevé le premier objet. Exemple 3. Pareil pour les femmes belles et moins belles. Exemple 4. Quand un homme entre dans un magasin dans le seul but d'acheter un costume, il paiera presque toujours plus cher pour les accessoires, s'il les achète après le costume plutôt qu'avant. Exemple 5. En tant qu'agent immobilier, gardez deux maisons horribles et relativement chères pour mettre en valeur les maisons normales. Exemple 6. Une voiture achetée à 12 000 euros aura des accessoires vendus beaucoup plus facilement qu'un véhicule d'occasion à 2 000 euros. Exemple 7. Pour alléger un échec de chiffre d'affaires en chef d'équipe, il peut très bien dire « Je vous suggère, quand vous rentrerez chez vous ce soir, de lever les yeux vers le ciel pour contempler l'immensité de l'univers. Vous percevrez alors l'insignifiance de nos pertes du deuxième trimestre. » Chapitre 2 « La réciprocité donnant-donnant et reprenant. » Payez chacune de vos dettes comme si votre créancier était Dieu le Père. Ralph Waldo Emerson. La règle de réciprocité annihile l'influence de la sympathie. Pour monter au pouvoir, endetter l'entourage en donnant. Les organisations politiques ont compris que l'un des meilleurs moyens de conserver leur homme d'affaires est de faire un grand nombre de petites faveurs aux électeurs. L'obligation de donner crée un contrôle. Le receveur est plus manipulable et l'oblige à rendre, ce qui implique le principe de réciprocité. Autrement dit, recevoir réduit notre liberté de choisir envers qui nous nous endettons et met le pouvoir au donneur. Il faut donc combattre l'effort social pour refuser de recevoir, refuser quelque chose que l'on ne peut rendre en retour. Le coût psychologique peut dépasser la perte matérielle. Exemple 1, les femmes évoquent souvent le désagréable sentiment d'obligation qu'elles éprouvent vis-à-vis d'un homme qui vient de leur offrir un présent coûteux ou de les inviter dans un grand restaurant. J'ai appris à mes dépens à ne plus accepter qu'un garçon rencontré en boîte paie mes boissons. Ainsi, il ne me considère plus comme un sexuellement redevable. Exemple 2, l'histoire d'un scout et d'une femme. Le dialogue se présente ainsi. Le scout dit « Voulez-vous des billets pour la fête des scouts la semaine prochaine? C'est à 5 $ pièce. » La femme répond « Non merci. » Le scout répond « Très bien, que dites-vous de nos barres choco à 1 € seulement ?» La femme répond « Écoutez, je vous en prends deux. » La femme se rendit compte 1. qu'elle n'aime pas les barres chocolatées, 2. qu'elle tient à son argent, 3. qu'elle est plantée avec 2 barres chocolatées, et 4. que le jeune garçon s'éloigne avec ses 2 $. L'analyse, le scout a fait une concession à la femme en baissant le prix. La femme est emprise par la règle de réciprocité à cause de la concession. La réponse se trouve à nouveau dans le bénéfice que retire la société de ce besoin. La société fait en sorte que les désirs initiaux, incompatibles entre eux, soient mis de côté pour favoriser une coopération socialement bénéfique. Le processus est rendu possible par un certain nombre de mécanismes de compromis et particulièrement les concessions naturelles. Une deuxième règle de la réciprocité est le rejet-retrait, qui consiste à faire une offre trop importante, puis retirer sa prétention de vente à une offre plus petite. La proposition de départ doit être exagérée mais pas extrême. Application du rejet-retrait. Exemple 1. Une proposition initiale. Le comité de conseil de la jeunesse se présente dans une université. Elle propose d'accompagner un groupe de jeunes délinquants dans une excursion aux eaux bénévolement. 83% de refus. Pour faire baisser le taux de refus, une première proposition est présentée, une proposition rejet, qui sera systématiquement refusée. Exemple. Le comité de jeunesse propose de consacrer 2 heures par semaine à des jeunes délinquants pendant 2 ans minimum. Ensuite, la proposition initiale est mise sur le tapis, ce qui fait obtenir 50% de refus, comparé à 83% au départ. Exemple 2. Marshall, présentateur télé, joue avec la censure. Une phrase tout public, telle que « Le héros doit absolument sortir de son appartement et monter à l'étage avec les filles. » Ne lui plaît pas, car n'est pas assez choquant. Cependant, il n'arrive pas à faire passer sa proposition initiale qui est « Monter en vitesse, mon désir refroidit. » Il fait donc une proposition rejet, telle que « Bougez-vous le cul ou je vous explose à l'étage. » et présente ensuite sa proposition initiale, qui finit par être acceptée par le comité de censure. Exemple 3. Le rejet suivi de renseignements. Une offre X est rejetée. Le retrait du commercial consisterait à dire « Si vous pensez que ce magnifique produit ne vous convient pas pour le moment, peut-être pourriez-vous m'aider en me donnant le nom d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées par cette offre exceptionnelle. » Exemple 4. Un combo mortel, réciprocité, perception contrastée et rejet-retrait. Il s'agit du scandale de Watergate en 1974. Un cambriolage des bureaux de Watergate du Parti démocrate organisé par Richard Nixon, qui le poussa à la démission de son poste de président des États-Unis en 1974. Cette opération a coûté 2 500 $. C'est une idée qui est venue de J. Gordon Liddy, responsable du renseignement dans le comité pour la réélection du président. Il s'est fait une réputation parmi les hauts responsables de l'administration Nixon. un pronostic trop intéressant pour le rival MCI Gouvern. L'opération était trop risquée et impliquait d'acheter le silence de 5 hommes. Gordon Liddy proposait deux autres plans, l'un à 1 million d'euros et l'autre à 500 000 euros. Celui à 1 million impliquait un cambriolage, enlèvement, intervention commando, mission de liaison par avion de chasse et call girl de luxe pour faire chanter les responsables démocrates. Une semaine plus tard, après suppression de quelques éléments, une nouvelle proposition à 500 000 dollars a été rejetée. La proposition plan minimum à 250 000 dollars, qui était la proposition retrait, fut acceptée malgré l'échec et la divulgation de l'opération dans les médias. Pour parer à l'effet de rejet-retrait, il est conseillé de présenter une personne neutre pour la proposition retrait, qui n'a jamais entendu parler des propositions rejet. Exemple 5, proposition initiale. Travailler bénévolement pendant 2 heures dans un institut s'occupant de malades mentaux. Eu 71% de refus et 50% de présentation au poste après engagement. Une deuxième proposition a été faite, travailler 2 heures par semaine pendant 2 ans. Puis la proposition initiale reçut seulement 24% de refus. 85% de présentation au poste après engagement. Pourvu que la ruse ne soit pas perçue de façon évidente. Conclusion, une concession pousse l'autre à en faire une. Et deux sous-produits apparaissent, le sentiment d'être responsable de l'accord et la satisfaction par rapport à l'accord. Les requêtes décroissantes donnent la sensation à la proie d'avoir réussi à convaincre l'adversaire de se contenter d'une somme plus raisonnable. Ainsi d'avoir été responsable et donc satisfait. Plus confiant pour être client. Pour éviter d'être manipulé et savoir dire non, il faut redéfinir les choses. Un cadeau est une démarche commerciale si on vous demande de l'argent. Ainsi, rejeter la règle de réciprocité. Chapitre 3, engagement et cohérence. Les démons de l'esprit. Il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite. Léonard de Vinci. Un parieur de cheval de cohérence et d'auto-persuasion est si puissant qu'il peut nous contraindre à faire ce que nous ne voudrions pas faire normalement. L'expérience du psychologue Thomas Mariarty, une simulation de vol de radio au bord d'une plage new-yorkaise, 4 personnes sur 20 interpellèrent le voleur quand le propriétaire s'est installé et a quitté sa place avec la radio. 19 personnes sur 20 interpellèrent le voleur avec plus d'énergie quand le propriétaire a demandé à ses voisins de surveiller ses affaires. Ceci s'explique par la valorisation de la cohérence dans l'adaptation au sein d'un groupe social. La femme qui change sans cesse d'avis se fait traiter de capricieuse, de cervelle d'oiseau. L'homme influençable est faible, incapable de tenir une décision. Quelqu'un dont les opinions, les paroles et les actes ne concordent pas peut être considéré comme incohérent, hypocrite ou même déséquilibré. Alors qu'une cohérence sans faille est synonyme d'intelligence et de force de caractère, la cohérence égale logique, rationalité et honnêteté. Sir Joshua Reynolds écrivait « Il n'y a aucun expédient auquel un homme ne soit pas prêt à recourir pour s'épargner l'effort et la peine de penser. Ce n'est pas forcément l'effort intellectuel nécessaire à la réflexion qui nous rebute, mais les dures conséquences de cette réflexion. L'autocohérence peut donc masquer ses faits troublants. Exemple 1, le mur de cohérence est là pour protéger les troublantes conséquences de la réflexion. Une conférence de méditation transcendantale, organisée dans une province new-yorkaise, permettait d'atteindre ce que l'on désire, soi-disant, de traverser les murs et de l'éviter. Robert Cialdini était accompagné d'un ami professeur d'université, spécialiste de statistiques et de logique formelle, pour observer les tactiques de persuasion utilisées. Agacé par la conférence, une fois venues les questions, il démonta l'argumentation des conférenciers, contradictoire, illogique et insoutenable. Après un silence embarrassé, ils tentèrent faiblement d'opposer leur objection mais n'y arrivaient pas. Malgré cela, la foule se précipita pour payer 75 $ d'inscription. Trois personnes furent interrogées sur pourquoi ils avaient payé. Dans les trois personnes, le premier était là pour performer au théâtre et avoir une meilleure maîtrise de soi, le deuxième avait des problèmes de sommeil, et le troisième était le porte-parole de ses amis. L'un avoua, quand votre ami là s'est mis à parler, j'ai pensé qu'il fallait que je paye tout de suite. Ou une fois rentré chez moi, je me mettrai à réfléchir à tout ce qu'il avait dit et je ne m'inscrirai jamais. C'est l'exemple parfait de la quête désespérée, à en croire les conférenciers, que les clients allaient enfin toucher au but. Poussés par le besoin, ils voulaient à tout prix que la méditation transcendantale soit la solution. C'est alors que la voix de la raison, démontrant les failles, fait paniquer. Agir immédiatement avant que la logique ne l'emporte et laisse sans espoir. Élever des remparts illusoires. Vite, échapper à la pensée. Tenez, prenez l'argent. Ça y est, je suis sauvé. Plus besoin de réfléchir à la question. La décision est prise. À partir de maintenant, la cascade cohérence peut se dérouler chaque fois que c'est nécessaire. Il existe donc des exploiteurs de cette autocohérence purement réflexe, mécanique, qui est une véritable aubaine. Exemple 2, des fabricants de jouets qui veulent continuer à vendre du mois de janvier jusqu'au mois de mars, réalisant leur majorité de bénéfices à Noël au mois de décembre, voulaient absolument trouver une astuce pour écouler leur stock après Noël. Une entreprise a trouvé le moyen en approvisionnant faiblement les magasins de leurs jouets pendant la période de Noël, en bombardant de publicité. L'enfant fait promettre à son parent fait promettre à son parent de lui acheter des cadeaux à Noël. Et une fois la commande passée, le jouet est en rupture de stock. Le parent, obligé d'acheter un deuxième jouet de la même valeur qu'il avait promis à son fils, rachète le premier jouet de la promesse dans les 2 prochains mois, grâce à une deuxième couche de publicité après Noël, ravivant la flamme de l'enfant. Autre principe, l'engagement. L'engagement pousse à une cohérence automatique et inconsidérée. Le lien entre engagement et cohérence est étroitement lié. Ainsi, les stratégies d'engagement sont utilisées contre nous pour toutes sortes de professionnels de la persuasion. Toutes ces stratégies ont pour objectif de nous pousser dans des déclarations qui nous enferment dans une attitude docilement cohérente. Certains sont directs et d'autres plus insidieuses. Exemple 1. Une œuvre de bienfaisance demande aux habitants d'un État une participation pour faire du porte-à-porte afin de lutter contre le cancer. Il demande au téléphone si la personne est en bonne santé. La plupart disent l'être. Maintenant que vous avez ouvertement déclaré votre parfaite santé, il devient beaucoup plus facile pour votre interlocuteur de vous coincer en vous demandant de l'argent pour ceux qui n'ont pas votre chance. Exemple, je suis ravi de l'apprendre, monsieur, car je vous appelle pour savoir si vous souhaitez faire un don au profit des malheureuses victimes qui n'ont pas votre chance. Voici quelques chiffres prouvant l'efficacité de l'exemple 1. Œuvre caritative, don à un vendeur de gâteaux, 18% de réponses favorables. Je suis désolé, mais c'est horrible. Hein. Mais moi, ça me fatigue en fait. Je sais pas si.
De quoi?
C'est nul, non?
Bah on écoute quoi, c'est tout? Non, non? Ça te saoule?
Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit.
Qu'est-ce qui est nul pour toi exactement? Si tu veux, on peut faire une petite
Non,
pause
mais
et
non, je
commencer
vous
à débattre
demande,
avec.
je vous demande si c'est éclaté ou pas comme présentation.
Bah pour l'instant, j'arrive à suivre. Après, bah je sais pas. Tout ce que tu vas développer par la suite, mais pour l'instant, j'essaie de suivre un peu le cours.
Ouais, mais t'essayes ou t'y arrives à suivre? Est-ce que t'arrives à suivre?
Bah, j'arrive à comprendre. Ça me fait même penser à des techniques clairement marketing, commerciales, qu'on retrouve dans la pub.
Ok, d'accord. Je continue alors. Donc, œuvre caritative, dont un vendeur de gâteaux. 18% de réponses favorables. Alors que si vous présentez en demandant la santé du client, exemple, comment allez-vous, la forme? Oui, très bien, et vous? Embrayer sur la chance d'être en bonne santé et de faire un don vous octroiera 32% de réponses favorables. Une belle illustration du jujitsu social. Exemple 2. Pendant la guerre de Corée, beaucoup de soldats américains se trouvèrent prisonniers dans un camp dirigé par les communistes chinois. Au lieu d'une extrême violence comme les Coréens, les Chinois faisaient preuve de beaucoup de douceur, très subtile, et agressaient psychologiquement. Ils poussaient les Américains à se dénoncer par des offres de sacs de riz. Une fois dénoncés, le processus d'engagement et de cohérence s'est mis en place pour obtenir la soumission des prisonniers. Pour faire collaborer, il faut y aller petit à petit. Commencez par faire des annonces anti-américaines ou pro-communistes. Par exemple, tout n'est pas parfait aux États-Unis. Dans un pays communiste, par exemple, il n'y a pas de problème de chômage. Une fois soumis à ces exigences assez modestes, des légèrement plus fortes étaient appliquées, comme une liste de tous les problèmes ressentis par l'Américain prisonnier. Cette liste et témoignages étaient diffusés par les chaînes de propagande et dans les autres camps de prisonniers américains. Une fois l'étiquette « collaborateur » assimilée, le collaborateur devient très actif. Cette méthode offre donc aveu, autocritique et renseignement. Exemple 3. La persuasion par l'engagement est aussi appliquée par des vendeurs. Les petits achats entraînent de gros achats, aussi appelés « le pied dans la porte ». Exemple de pied dans la porte. Banlieue résidentielle. Dans une banlieue résidentielle, Jonathan Friedman et Scott Fraser publient des résultats étonnants. En proposition initiale, un enquêteur se présentait comme un travailleur bénévole, allait présenter à tous les résidents une requête exorbitante. Les propriétaires étaient priés de laisser apposer sur leur pelouse une pancarte en faveur de la sécurité routière. Naturellement, 83% refusèrent. Dans une autre enquête du même style, 15 jours avant, un autre enquêteur, bénévole, toujours pour la sécurité routière, demande d'apposer une mini-pancarte de 20 cm carrés avec l'inscription « Soyez un bon conducteur » qui naturellement fut refusé à 100%, mais une fois la proposition initiale demandée, avait fait baisser le taux de refus à 24% comparé à 83% initialement. Une troisième enquête montrait que si l'on présente une pétition pour préserver la beauté de la Californie, presque tout le monde signe la proposition initiale à 50% de refus. Cette dernière s'explique par la modification de l'opinion des gens qu'ils ont par rapport à eux-mêmes, se considérant comme des citoyens soucieux de l'intérêt général et guidés par leur esprit civique. Les 50% d'acceptation s'expliquent par le moyen de se montrer cohérent avec la nouvelle image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Il se produit un changement dans les sentiments de l'individu vis-à-vis de l'engagement de l'action positive. Une fois qu'il est accepté, il devient à ses propres yeux le genre de personne qui s'engage de la sorte, qui accepte de collaborer avec des inconnus, qui s'engage pour obéir à des convictions, qui soutient des causes justes. Conclusion, y réfléchir à deux fois avant de s'engager dans des causes même minimes. Notre consentement peut nous amener à accepter d'autres propositions similaires plus importantes, mais aussi nous disposer favorablement à des requêtes exorbitantes avec peu de rapport avec le petit service initial. Conseil, il faut donc refuser les pétitions. Après l'exposition de ces expériences sur l'engagement, il est intéressant de constater que l'on peut changer le citoyen ordinaire en personne soucieuse de l'intérêt général, le consommateur en client, le prisonnier en collaborateur. Et lorsque l'on a voulu modifier l'image de l'individu, celui-ci se conforme tout naturellement à ce que vous lui demandez dans la ligne de ce nouveau personnage. Autre principe, l'acte magique. Les meilleurs indices de ce que les gens sentent et croient réellement sont dans leurs actes. Leur propre comportement révèle beaucoup de choses sur eux-mêmes. C'est la première source d'information sur ses opinions et valeurs. Les Chinois ont découvert qu'il ne suffisait pas d'écouter simplement ou même d'approuver verbalement les discours. Il faut faire écrire le prisonnier esclave. Ce procédé d'engagement entraîne des comportements extraordinaires. Premier comportement, c'est une preuve matérielle de persuasion. Deuxième comportement, Les témoins de la déclaration écrite ne changent pas leur opinion sur l'auteur. Malgré que le prisonnier esclave est écrit sous la contrainte, ce phénomène est expliqué par les psychologues Edward Jones et Jamie Harris. Ce que croit notre entourage détermine ce que nous croyons. L'image positive d'une personne subit deux pressions. La pression interne qui est poussée à mettre ses actes en conformité de son image. La deuxième pression externe, le plus sournois, à adapter son image à la façon dont les autres le perçoivent. C'est ainsi que l'adage « la plume est plus forte que l'épée » s'applique, car la manipulation par l'écriture, la manipulation par l'image qu'aura l'esclave de lui-même sera beaucoup plus puissante qu'une violence purement physique. Les Chinois adaptèrent une autre stratégie, celle de récompenser des textes élogieux du régime politique des prisonniers seulement de temps à autre. Cela permet de motiver les prisonniers à faire des concessions pour le régime maître, et petit à petit les rallier à la cause du maître gardien. Plan de collaboration et conversion. Ce se traduit par une déclaration écrite, plus des rédactions libres avec quelques citations du maître. Faire remplir au contrat de vente à l'acheteur en stipulant un engagement. Cela est un atout psychologique majeur pour empêcher la résiliation d'un contrat de client. Autre principe, l'œil public. Les engagements publics sont des engagements durables. Exemple 1, organiser des concours de textes à 20, 50 ou 100 mots maximum. Accorder des prix élevés aux gagnants et utiliser les avis pour les afficher publiquement. Une conduite cohérente est une qualité majeure. Il est donc rationnel, sûr, raisonnable et digne de confiance. Un avis rendu public est plus difficile à corriger qu'un avis secret ou anonyme. Ce sont les psychologues Morton Deutsch et Harold Gerard qui ont découvert cela. Pour éviter des votes sans majorité, donc neutres, faire des bulletins secrets. Pour tenir une promesse ou un engagement, le faire publiquement. Un effort supplémentaire. Autre principe, celui de l'effort supplémentaire. L'objectif des bizutages ou rituels initiatiques est de souder un groupe pour le faire survivre davantage. Il est possible de souffrir inutilement et d'être influencé faussement à la pertinence du groupe à cause de la souffrance du bizutage de ce même groupe. Le choix intérieur. L'endoctrinement et les rituels initiatiques apprennent certaines choses sur l'engagement. Un engagement public douloureux, actif et très influent. Nous acceptons intérieurement la responsabilité d'un comportement lorsque nous pensons que nous l'avons choisi, libre de toute pression extérieure. Pour persuader à coup sûr, il faut que l'individu subisse le moins de pression extérieure possible. Les menaces ainsi que les trop grandes récompenses sont de trop grandes pressions qui empêchent le sentiment de choix intérieur. Jonathan Friedman a découvert que pour empêcher un enfant de faire quelque chose sur le long terme, il fallait mieux dire « ce n'est pas bon pour toi » ou « si l'enfant a besoin de plus », expliquer dans le détail et si l'enfant est difficile, le menacer très légèrement. Exemple, « ce n'est pas bon pour toi et si tu le fais encore, je serai obligé de faire quelque chose que je vais détester. » Gardez à l'esprit que la menace est la pire des manières. Important, utiliser une motivation qui produit le comportement désiré et permet, en même temps, à l'enfant de se charger de la responsabilité de ce comportement. Ainsi, moins la pression extérieure est détectable, plus la motivation est efficace. Les professionnels de la persuasion veulent des changements internes suite à l'engagement. Les engagements produisant un changement interne se développent d'eux-mêmes. Être un citoyen soucieux de l'intérêt général, se mettre au service de la communauté. Un individu sans scrupules peut nous fournir un mobile pour nous inciter à certains choix. Une fois la décision prise, faire disparaître le mobile, sachant que la décision tiendra toute seule. Exemple 1. Un concessionnaire automobile offre au client un prix avantageux, exemple moins 400 euros sur le prix initial. Le but étant d'amener le client à décider d'acheter le modèle. Une fois la décision prise, faire remplir le formulaire, fixer les modalités de paiement, voire de proposer au client une journée d'essai. Pendant ce temps-là, le client cultive automatiquement les bonnes raisons de faire le choix qu'il a fait. À ce moment-là, un peu plus tard, il faut signaler une pseudo-erreur dans les calculs, un oubli d'options, par exemple, air conditionné, radio, climatisation et vitres automatiques, et rajouter 400€ au prix initial. Certains vendeurs laissent aux banques qui ouvrent le crédit le soin de découvrir l'erreur. D'autres laissent le patron désavouer l'erreur car cela nous ferait perdre de l'argent, entre guillemets. Pour insister sur le fait que c'est bien ce modèle-là que vous vouliez, n'est-ce pas ? Exemple 2, proposer au client une reprise sur son ancien véhicule au moment de l'achat d'une neuve. Par la suite, avant la signature du contrat, faire intervenir le responsable de reprise et dire que l'estimation de reprise est trop haute de 400€ et réduire au prix normal de la vente. Exemple 3, le docteur Michael Palak réalisa un projet pour faire diminuer la consommation de gaz à des foyers. Il engagea un premier enquêteur qui se contenta de donner des conseils et de demander aux clients d'essayer de baisser leur consommation. Naturellement, les habitudes n'ont absolument pas changé. Puis, un deuxième enquêteur fait la même chose, mais à une condition près. Il signale au client qu'il y aurait une publication dans le journal du foyer qui réalisera la meilleure économie d'énergie. Non seulement la baisse d'énergie a été réalisée, mais en plus a été maintenue et améliorée dans le temps. Soit 12% d'économie, et 3 mois plus tard, 15,5% d'économie. Autre principe, comment dire non ? La cohérence mal avisée est le démon des petits esprits. Ralph Waldo Emerson. Il semble évident que la cohérence est la marque d'un esprit intelligent et logique, alors que l'inconséquence caractérise les individus faibles et bornés. Arme d'influence massive, engagement plus cohérence au principe de cohérence stupide et rigide. Tendance automatique sans réflexion cohérente, qui fait le bonheur des exploiteurs dans l'engagement cohérent. Le problème étant que la cohérence automatique est très utile car de devoir réfléchir à chaque décision ferait que l'on n'aurait jamais le temps pour quoi que ce soit de valable. Nous avons besoin de cette sorte de cohérence mécanique, même si elle est dangereuse. Il faut donc savoir que cette cohérence peut amener à faire des choix malheureux. Nous avons deux signaux qui nous permettent de les détecter. Premier signal, le creux dans le ventre lorsque nous consentons à quelque chose contre notre gré. Et le deuxième signal étant les mécanismes de vente. Les mécanismes de vente sont répartis en trois étapes. Pardon. La première étape, une publicité d'énergie, jouera sur quatre piliers fondamentaux, la fierté du client, la nouvelle image que le client fera de ses économies d'énergie, l'apport qu'il aura pour sa nation en tant que citoyen modèle, et enfin ses économies financières, grâce à sa diminution de consommation de gaz. Une fois ces quatre piliers mis en place, la demande financière de la publicité est retirée de l'esprit du client. Il faut donc faire attention aux mensonges pour donner une image qui n'est pas la sienne et entrer dans le processus d'engagement cohérence. La parade, expliquer exactement ce qu'ils sont en train de faire. Bien que la plupart ne comprennent pas, ils sont suffisamment troublés pour partir. Rappelons un démon de l'esprit, l'engagement et la cohérence. Chaque fois que l'estomac dit qu'il est stupide d'accepter une proposition simplement pour rester cohérent avec quelques engagements antérieurs, auxquels j'ai été conduit par la ruse, le transmettre au sollicitateur. Exemple 1, une vendeuse sexy se présente et commence à dire « Quelqu'un qui a une vie sociale aussi active que la vôtre voudra certainement profiter des incroyables économies que notre société peut vous offrir sur toutes les activités que vous m'avez citées. » Un bon mécanisme de défense serait de répondre « Pas du tout. Voyez-vous, je comprends ce qui vient de se passer, madame. Je vois que ce que vous m'avez raconté n'était qu'un faux prétexte pour me faire dire si je sortais souvent, et dans la circonstance, une tendance naturelle m'a poussé à exagérer. Je vois aussi que votre patron vous a choisi pour votre physique très, très séduisant, qu'il vous a dit de porter des vêtements révélant une grande partie de vos tissus cutanés, parce qu'une jolie jeune femme légèrement vêtue incite les hommes à se vanter de leur vie trépidante pour impressionner. C'est pourquoi je ne suis pas intéressé par votre club à cause de la cohérence mal avisée et les démons de l'esprit. » La vendeuse sexy répondra naturellement qu'elle ne comprend pas. Vous pouvez rajouter « Écoutez, ce que je vous ai dit pendant l'enquête n'a aucune importance. Je refuse de me laisser enfermer dans une séquence automatique d'engagement et de cohérence quand je sais qu'elle n'a aucune raison d'être. Il n'y a pas de déclic qui tienne. La vendeuse sexy partira avec un air bredouille. Pour le client, vous pouvez vous dire qu'il serait stupide de votre part de dépenser de l'argent pour quelque chose que vous ne voulez pas, ou bien encore que vous savez que votre estomac ne veut pas de de la carte membre, et troisièmement, que vous allez tout simplement pas l'acheter.
Voro, je peux te couper une seconde. Il y avait une question de Twiz, je crois. Si tu veux prendre la parole, Twiz.
Ouais, j'osais pas interrompre. Mais ton exemple sur la conso de gaz m'a un peu interpellé. J'ai pas saisi le mécanisme qui a fait que les gens ont baissé leur consommation. C'est juste le fait de dire vous allez apparaître dans le journal et du coup tout le monde va vous juger, ou ça va un petit peu plus loin que ça?
Alors c'est un jugement positif dans le sens, c'est que ceux qui auront réalisé des économies qui vont être publiées. C'est une espèce de récompense, si tu veux, sociale. Ceux qui auront fait des économies seront publiés dans le journal.
Et donc le résultat, c'est que non seulement au moment de la publication, ça avait baissé, mais par la suite, ça a encore plus baissé.
C'est ça, c'est que non seulement les gens appliquaient les conseils de réduction de consommation d'énergie, mais en plus, ils faisaient des efforts. Juste par la pression sociale, en fait. C'est même pas de la pression négative, dans le sens où celui qui sera le plus mauvais sera publié, pas du tout. C'est de la pression positive. C'est le meilleur, uniquement celui qui aura fait les meilleures économies. Le reste, on s'en fiche, mais c'est juste pour motiver les gens à avoir une meilleure image au niveau de leur entourage ou de la ville ou de je ne sais quoi. C'est une reconnaissance positive, tout simplement.
Ok, il y a un côté employé du mois, quoi.
Si tu veux.
J'ai du mal à croire que ça a eu un tel impact, quoi.
Alors, un tel impact, les chiffres, c'est 12% à 15% d'économie. Hein. C'est pas non plus des chiffres stratosphérique. Hein.
C'est pas stratosphérique, mais je trouve ça quand même considérable quand on parle d'un truc. Enfin bon, moi je veux pas complètement bloquer le débat là-dessus. Ça m'avait interpellé. C'est pour ça que je voulais appuyer là-dessus pour être sûr d'avoir bien compris.
C'est bon, t'as compris ?
Ouais, bah c'est bien ce que j'avais compris. Ça me surprend énormément, mais ouais, j'avais bien compris.
Ça marche. Impeccable. Du coup, je continue.
Yes, merci.
Chapitre 4, la preuve sociale. La vérité, c'est les autres. Lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Walter Lippmann. La preuve sociale est appliquée par exemple au rire préenregistré des émissions et séries comiques. Car bien qu'explicitement artificiel, les spectateurs rient plus souvent et plus longtemps. Nous jugeons un comportement X plus approprié dans une situation si nous y voyons d'autres personnes le faire. Habituellement, quand un grand nombre de gens fait quelque chose, c'est que c'est la meilleure chose à faire. Cette vérification par les faits est à la fois la force et la faiblesse du principe de la preuve sociale, car elle rend vulnérable celui qui l'emprunte au profiteur embusqué sur le chemin. Exemple 1, pour obtenir des pourboires, il faut amorcer la panière, en tant que barman, évangéliste, musicien, etc. Cavette Robert dit 95% des gens sont des suiveurs, 5% sont des innovateurs. C'est mal rédigé, là j'enchaîne des trucs qui n'ont rien à voir. Albert Bandura apporte une solution pour supprimer le comportement pathologique. Exposer 20 minutes par jour à des scènes positives avec l'objet de la phobie. Exemple, si on a la phobie des chiens, regardez des scènes d'enfants avec des chiens qui se passent bien. 4 jours plus tard, 67% acceptent d'aller dans un parc avec des chiens. Ce que nous préférons croire semble vrai. Attention à l'influence de la masse qui est d'une puissance diabolique. Plus il y a de gens pour estimer qu'une idée est juste, plus l'idée sera juste. Autre principe, cause de la mort, l'incertitude. Lorsque l'incertitude règne, nous sommes davantage disposés à nous en remettre aux actions d'autrui pour déterminer la conduite à tenir. Mais ces personnes sont elles aussi très probablement à la recherche de preuves sociales. Cela s'appelle l'ignorance collective, l'inaction devant des victimes ayant un besoin urgent. Exemple 1, le meurtre de Kitty Genovese en 1964 à New York. Un fait divers a démontré une chose incroyable. C'est que pendant une demi-heure, cette femme a été pistée par son meurtrier et n'a reçu aucune aide, malgré 36 témoins. Cela démontre l'ère de l'indifférence, aveugle et sourd aux maux de nos concitoyens. Certains dénoncent l'influence nocive de la télévision et de ses violences, d'autres l'agressivité refoulée ou encore la dépersonnalisation de la vie urbaine et son aliénation. Exemple 2, les psychologues Latané et Darley ont découvert que lorsqu'une personne est en danger, elle a 85% de chances d'être secourue s'il n'y a qu'une seule personne dans les alentours. Quand cette même personne est en danger, elle a 35% de chances d'être secourue s'il y a 5 personnes ou plus. Exemple 3, lors d'un exercice de départ de feu, 75% des témoins isolés sonnèrent une alarme quand de la fumée sortait d'une porte. 38% s'ils étaient 3, dont 2 passifs, et 10% si l'on dit de ne rien faire. Cependant, lors d'un accident explicitement dangereux, 100% des personnes interviennent, exemple un accident de voiture ou un choc électrique. 3 raisons expliquent les chiffres en ville. La première raison est que l'environnement est bruyant, changeant, difficile d'être certain de la nature des événements. La deuxième raison est que c'est une zone très peuplée, donc il y a une baisse du taux de secours spontané. La troisième raison est que les gens ne se connaissent pas. Autre principe, comment ne pas être victime? La meilleure façon de faire pour obtenir une aide immédiate dans une foule est de pointer du doigt une personne et dire « Vous, monsieur ou madame, avec votre veste bleue, votre pantalon jaune ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'aide, appelez une ambulance. » Nous avons tendance à croire les adolescents doués d'un esprit rebelle et indépendant. Or, il importe de remarquer toutefois que cela ne se vérifie en général que vis-à-vis de leurs parents. En compagnie d'autres jeunes, ils se conforment massivement à ce que leur dicte la preuve sociale. Des psychologues de l'Université de Columbia ont expérimenté l'abandon d'un portefeuille à Manhattan et placèrent une lettre rédigée soit dans un anglais correct, soit dans un anglais approximatif, expliquant que le portefeuille est souvent perdu et qu'il fallait le renvoyer à l'adresse du propriétaire. 33% furent renvoyés quand il s'agissait d'un anglais approximatif, et 70% furent renvoyés quand il s'agissait de l'anglais correct. Un enfant de 3 ans qui ne sait pas nager sera en mesure d'être correctement influencé si c'est un autre enfant de 3 ans qui sait nager. Cela s'explique par l'effet Weiser. L'effet Weiser explique que les publications médiatiques de suicides solitaires conduisent à des accidents de suicides solitaires et que les suicides accompagnés de meurtres font plus de victimes par imitation, qui accentue des causes raciales, ethniques, économiques, culturelles et au niveau de l'âge. Ethnique, pas racial. Éviter les voyages en avion après la publication d'un suicide ou prendre une grosse assurance, être extrêmement vigilant en voiture également. Alors, je vais vous montrer, il faut aller sur... Je sais pas si vous êtes sur mon live, je vous montre c'est un graphique qui est présenté au niveau du nombre de morts. Donc la flèche noire, c'est l'apparition d'un article à cause de suicide. C'est un nombre d'accidents mortels survenus avant et pendant après la publication d'une nouvelle de suicide. C'est des accidents d'avion de ligne. Donc il y a une parution d'article un jour X, et on constate souvent, ou 4 ou 3 jours plus tard, il y a un pic d'accidents mortels. Et il y a une deuxième vague qui suit après, au niveau du 7e ou 8e jour.
Mais c'est quoi la corrélation? C'est que c'est les pilotes de l'avion qui ont lu ces articles?
Alors la corrélation, c'est l'effet Weiser, c'est que quand dans les médias on parle de suicide, il y a automatiquement des suicides qui vont suivre. qui sont en relation avec les conditions du suicide dans les médias. Si c'est un suicide solitaire, ce sera des suicides solitaires qui vont venir. Et si c'est des suicides collectifs, ce sera d'autres suicides collectifs.
Pour les suicides, je comprends, mais là, ton graphique, ça parle d'avions de ligne. Du coup, c'est comme si... généralement, quand il y a un crash d'avion de ligne, c'est pas qu'il y a un pilote suicidaire, tu vois, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je comprends pas comment l'apparition d'un article sur...
Bah, tu peux t'intéresser, tu peux taper l'effet Weiser et tu auras tout un tas d'exemples.
Yes.
C'est simplement, ça joue sur la psychologie des personnes, en fait, tout simplement. Les personnes, parce que énormément de gens regardent les médias, le simple fait qu'il y ait vocation de suicide, ça va miner le moral des gens, et donc automatiquement engendrer des accidents mortels.
Ok.
Que ce soit l'avion, que... Après, tu vois, les chiffres sont relativement faibles, hein, c'est 90 accidents, 70 accidents, c'est pas énorme, mais quand même.
C'est vrai que quand on entend accident d'avion, on imagine tout de suite l'avion qui crache en plein vol, qui fait 300 morts, mais en fait, c'est pas forcément que ça.
Je pourrais pas développer là-dessus. Je ne fais que vous retranscrire les informations du livre.
Yes,
ça marche.
Le suicide collectif de Johnstown en Guyane. Alors celui-là, il m'a choqué. Le Temple du Peuple était une société semi-religieuse issue de San Francisco qui recrutait ses membres parmi les déshérités de la ville. En 1977, le révérend Sim Jones, chef spirituel et politique incontesté du groupe, faisant en 1978 un groupe de 4 enquêteurs... Alors, j'ai expliqué n'importe comment. Je recommence. Le Temple du Peuple était une société semi-religieuse issue de San Francisco qui recruterait ses membres parmi les déshérités de la ville. En 1977, le révérend Sim Jones, chef spirituel et politique, incontesté du groupe. En 1978, un groupe de 4 enquêteurs furent tués avec à la tête un membre du Congrès. Lou G. Ryan, qui furent tués alors qu'ils voulaient quitter Johnstown. Alors Johnstown, hein, c'est une micro-société, c'est une micro-ville gérée par un personnage charismatique. Certain d'être arrêté et impliqué dans ces meurtres, Jones voulut être maître à sa façon de la fin du Temple du Peuple. Il organisa un suicide collectif. Une jeune femme administra une dose de poison à son bébé, les autres suivirent, et emportant 910 personnes sur 1000, soit 91% de suicides dans ce mini-groupe. La raison est que Jim Jones était un homme avec une forte personnalité, vénéré comme un sauveur, aimé comme un père et traité comme un empereur. Sa clientèle était pour la plupart des gens pauvres, frustrés, prêts à abdiquer leur liberté de pensée et d'action en faveur de la sécurité d'un endroit où toutes les décisions seraient prises à leur place. À noter que le monde est rempli de sectes composées de faibles et dirigées par une figure charismatique. La particularité de Johnstown est qu'elle se situe en Guyane, aliénée du reste du monde, perdue dans la jungle d'un pays hostile. Certains attribuent à Jim Jones une sorte de génie malfaisant, mais ils avaient simplement compris quel impact psychologique aurait cette émigration. Les disciples se trouvaient dans un milieu où tout leur était étrange, ce qui déclenchait une hostilité machinale. Rappelons que l'incertitude est la cause de la mort et le principal appui du prince de preuve sociale. Du principe, pardon, de preuve sociale. Il avait donc pour un résident à Johnstown que d'autres résidents à Johnstown. Ce que fait et croit un résident était déterminé à un degré excessif pour les autres, sous l'influence de John. Le suicide de 91% de la secte s'explique par l'influence de John, mais surtout par la puissance de la preuve sociale. Quelques indications, il y a toujours un petit nombre d'individus à l'obéissance fanatique dans tout groupe dominé par un chef charismatique. Soit préparé à l'avance à servir d'exemple, ou docile au désir de ce personnage charismatique. Avis de Robert Cialdini. Le pouvoir vient des connaissances de principes fondamentaux de la psychologie plus qu'une personnalité remarquable. Ainsi, les plus influents sont ceux qui savent aménager des conditions de groupe de façon à ce que ces principes de preuve sociale agissent pour beaucoup en leur faveur. Pour dire non à ces principes-là, il faut prendre conscience du phénomène de la preuve sociale partout où l'argent est en jeu. Une forte probabilité de fausses preuves sociales, ainsi débrancher, il faut débrancher son pilote automatique et être à l'affût de tous les indices. Une foule se trompe dans bien des cas parce qu'elle n'agit pas d'après une information privilégiée, mais réagit elle aussi à la preuve sociale. Exemple 1. Au XIXe siècle, la claque était au théâtre et à l'opéra un ensemble de personnes qui influençaient le public pour des manifestations sonores positives ou négatives. Exemple 2. Les témoignages publics sont toujours positifs, les négatifs étant masqués. Des acteurs sont souvent engagés pour des micro-trottoirs. Exemple 3. Les zigzags dans les bouchons pour se précipiter dans les files plus rapides produisent beaucoup d'accidents. Exemple 4. Les parieurs d'hippodrome détournent la preuve sociale sur les chevaux perdants pour faire monter la cote du cheval gagnant. Cinquième chapitre, la sympathie. Le gentil voleur. Le travail d'un avocat consiste pour l'essentiel à rendre son client sympathique. Les personnes connues et sympathiques ont plus d'avis favorables aux requêtes. Le simple nom d'une personne sympathique et connue suffit. Le meilleur vendeur de voitures du monde, Joe Girard, a dit « Un vendeur qu'ils apprécient est un bon prix. » Joe Girard a dit « Un vendeur qu'ils apprécient est un bon prix, avec ça, l'affaire est faite. » Mais la question que l'on se pose maintenant est de savoir comment il faut se rendre sympathique. Il y a trois principes pour se rendre sympathique et obtenir plus de clients. Le premier principe étant l'apparence physique. La portée de l'apparence physique est beaucoup trop importante. Pour les gens, être beau égale être bien. Les entretiens d'embauche, les affaires judiciaires, les aides en tout genre, toutes les statistiques sont améliorées grâce à l'apparence physique. Deuxième principe, la similarité. Être semblable à son client, être semblable à la personne à laquelle vous voulez soutirer de l'argent. Dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se divertir, tout ce genre de choses. Troisième principe, complimenter la personne. Je ne développe pas, vous avez tous compris. Quatrième principe, le contact et la coopération. Exemple 1 de contact et de coopération, nous avons un sentiment favorable pour les choses, personnes avec lesquelles nous avons déjà eu un contact. Cependant, dans les écoles, par exemple, la mise en contact des différentes ethnies engendre plus de conflits et de préjugés raciaux. Elliot Aronson et son équipe ont trouvé une solution pour engendrer de la coopération lorsque la prise de contact scolaire est génératrice de conflits. Un enseignement par puzzle. Dans ce système, les élèves doivent enseigner à tour de rôle et s'entraider pour l'interrogation où chacun a l'information dispersée comme un puzzle. Le résultat est que plus d'amitié et moins de tensions raciales sont apparues que la méthode compétitive ainsi que d'autres avantages. Les élèves des minorités n'étaient plus en situation d'échec. Ils aimaient l'école et amélioraient leurs résultats. Cela favorise la communication entre les élèves. Bien sûr, il ne faut pas supprimer la compétition, mais briser le monopole. Car la compétition motive et permet de construire une personnalité. La coopération joue un rôle dans le processus de sympathie. Exemple 2, feindre de se battre avec son patron pour baisser le prix. Vous vous trouvez dans un client se ramène dans une concession automobile. Le vendeur dira à son client... Écoutez, je vais essayer de vous faire plaisir, je vais négocier avec mon patron pour vous soutirer le meilleur prix. Vous simulez un échange colérique avec votre patron, vous revenez voir votre client. Généralement, le client sera plus enclin à payer le véhicule s'il pense que vous êtes battu pour lui. Exemple 3, le méchant et le gentil flic. Les interrogatoires de police les plus efficaces pour faire coopérer le délinquant et obtenir des aveux jouent sur la perception contrastée. Le méchant menaçant, impatient, colérique et agressif, puis le gentil canalisant le méchant, payant un café à la victime et lui promet un aménagement de peine s'il coopère. Cela donne la sensation d'un homme particulièrement raisonnable et compréhensif, et comme le gentil a payé un café, la règle de réciprocité s'applique au suspect pour lui faire une faveur. Autre principe, conditionnement et association. Isaac Asimov a dit « Toute chose égale d'ailleurs, on en tient pour son propre sexe, sa propre culture, sa propre localité, et nous voulons prouver qu'on est meilleur que l'autre. Ceux que vous soutenez vous représentent, et lorsqu'ils gagnent, c'est vous qui gagnez à travers eux. » Comment dire non ? Réagir au bon moment, laisser agir les mécanismes de sympathie, y être attentif. Repérer la sympathie excessive quand elle jaillit, un peu trop rapide et forte. Excusez-moi, je recommence. Réagir au bon moment, laisser agir les mécanismes de sympathie et y être attentif. Repérer la sympathie excessive quand elle jaillit, lorsqu'elle est un peu trop rapide et forte, et une fois qu'elle est repérée, s'attendre à riposter. Ne pas réagir par de l'antipathie, mais dissocier le vendeur du produit. En tant que prospect, faire jouer les amitiés du client et réduire le prix du réseau du client offre 90% de réussite. Chapitre 6, l'autorité. La déférence dirigée. Virgile disait, suivez un expert. Expérience de 1000 grammes. Question-réponse avec un professeur, un questionné et un questionnant. À chaque mauvaise réponse, on infligeait 15 volts jusqu'à des décharges extrêmement dangereuses. La conclusion est que quand on assigne une tâche à la capacité d'un individu normal à infliger une souffrance physique à un innocent est inquiétante. Si la motivation est aussi puissante, ce n'est sans doute pas sans raison. Dans le cas de la soumission à l'autorité, une brève considération de l'organisation sociale des hommes apporte toutes les justifications nécessaires. Un système d'autorité hiérarchisé comporte de grands avantages. Par exemple, elle met en place des structures complexes de production de ressources. Elle permet de produire du commerce à grande échelle. Elle permet de se défendre correctement contre des menaces très dangereuses. Elle permet une énorme expansion et apporte de l'ordre dans la société. L'anarchie, quant à elle, n'est pas particulièrement bénéfique, car avec elle, nous mènerions une vie solitaire, malheureuse, sordide, sauvage et brève. Nous apprenons donc l'obéissance aux autorités compétentes. Il faut donc penser au lieu de réagir. Exemple 1, une pub de café décaféiné a été jouée par un acteur d'une série où son rôle était d'être médecin. La pub appuyée par un acteur d'une série connue dans laquelle il était médecin avec une image de réel médecin a fait exploser les ventes. Les téléspectateurs croyaient qu'il s'agissait d'un réel médecin. Connotation et contenu. Réagir en vulnérable au symbole de l'autorité par rapport à la réalité. Les escrocs utilisent trois symboles, les titres, les vêtements et les accessoires. Le premier symbole, les titres, nous ont fait constater qu'un homme qui se présente à différents titres n'était pas perçu de la même taille. Exemple, dans une université, plus le titre est élevé, plus la perception de grandeur l'est aussi. Par exemple, D'un étudiant à un professeur titulaire, il y a 6 cm d'écart dans la perception de la personne. Autrement dit, vous prenez une personne, vous dites qu'elle est étudiante. Prenez cette même personne, vous la présentez dans l'université 15 jours après. Vous dites qu'elle est professeur titulaire, il y a une perception de la taille de l'individu de 6 cm. Cela s'explique par la parade nuptiale qui font gonfler les mâles. Un autre fun fact, il est possible de prescrire des doses médicamenteuses non autorisées dans un hôpital uniquement en se faisant passer pour un médecin au téléphone. Il y a 95% de réussite à condition de connaître le nom du patient. Troisième symbole, les vêtements. 92% d'obéissance à un uniforme qui demande à un piéton de donner 10 centimes à un homme à côté d'un parc-mètre. Troisième symbole, les accessoires. Une voiture de luxe ne sera presque jamais klaxonnée à un feu rouge, contrairement à une voiture banale. Comment dire non à ce principe ? Il faut éliminer l'effet de surprise, prendre conscience du pouvoir de l'autorité, prendre conscience que les symboles d'autorité peuvent être contrefaits avec la plus grande facilité. Bien que souvent il s'agisse de réels médecins, juges, hauts responsables et chefs politiques, posez-vous deux questions. Est-ce que cette autorité est vraiment compétente ? Et la deuxième question, quelle sincérité peut-on attendre de cette autorité en la circonstance ? Les jugements impartiaux sont beaucoup plus convaincants. L'honnêteté d'un vendeur le rend plus convaincant pour le reste. Exemple de technique d'un serveur selon la clientèle. Ces techniques ont fait leur preuve et donné plus de commandes et plus de pourboires aux serveurs qui les appliquaient. S'il s'agit d'une famille, il faut faire le pitre et amuser les enfants. S'il s'agit d'un couple, il faut paraître légèrement impétueux afin de provoquer le jeune homme. Si c'est un couple âgé, il faut être compassé avec une attitude très respectueuse. Si c'est un homme seul au restaurant, il faut être amical, communicatif et chaleureux. Et enfin, s'il s'agit d'un groupement de plus de 5 personnes, il faut prendre un air conspirateur et murmurer « Je crains que ce plat ne soit pas aussi réussi ce soir que d'habitude, puis-je vous recommander tel plat du jour, il est excellent ce soir ?» En faisant cela, vous donnez l'impression d'avoir rendu service, vous jouez sur la reconnaissance et la règle de réciprocité, vous obtenez une position favorable pour augmenter la taille de la commande, et enfin, au lieu de pousser à la hausse des prix, vous choisissez des plats moins chers, vous semblez donc avoir du cœur et défendre les intérêts du groupe. Quand tout le monde a commandé, il faut enchaîner par « très bien ». Et me permettez-vous de faire quelques suggestions quant au vin qui accompagnera votre repas ? La plupart du temps, cela fonctionne. Il faut donc retenir que la réciprocité, l'autorité et l'apparent désintéressement peuvent vous attirer de grands bénéfices. Autre méthode, un vendeur met un véhicule de 3000 euros sur le marché. Un vendeur met un véhicule à 300 000 euros sur le marché. Point. Un concessionnaire appelle et propose 3500 euros. Car plus la vente est élevée, plus sa commission est importante. Puis, deux jours plus tard, le concessionnaire explique qu'un acheteur potentiel trouve le prix trop élevé et propose de réduire l'achat de 200 euros. Puis, autre excuse du style, il y a mon emprunt à la banque qui n'a pas fonctionné, est-ce que vous pouvez baisser encore de 200 euros ? Puis, trouver une autre excuse pour réduire encore de 200 euros. Le but étant de prétexter le plus possible pour faire des réductions de 200 euros petit à petit. Chapitre 7, la rareté. Pour aimer, il faut comprendre que l'on pourrait perdre l'objet de son amour. Nous sommes plus motivés par la crainte de perdre une chose que la perspective d'en gagner une autre de valeur égale. Je répète, nous sommes plus motivés par la crainte de perdre quelque chose que la perspective d'en gagner une autre de valeur égale. Mieux vaut indiquer les pertes d'un mauvais travail que de vanter les économies d'un bon travail. Exemple 1, pour une campagne contre le cancer du sein, dire « en négligeant ce simple examen, qui ne prend que 5 minutes par mois, vous risquez de vous priver de plusieurs atouts. » Plutôt que « en consacrant juste 5 minutes par mois à l'auto-examen de vos seins, vous mettez plusieurs atouts de votre côté. » Il existe également les erreurs précieuses chez les collectionneurs. Un timbre mal imprimé, une pièce avec plusieurs yeux. La quantité limitée crée de la valeur. Une autre méthode, dans un magasin, des clients veulent acheter un produit X. Le vendeur du magasin se présente pour annoncer que X est indisponible. Et le dernier produit a été... C'est de la merde, comment je l'explique ? Dans un magasin, des clients veulent acheter un produit. Le vendeur du magasin se présente pour annoncer que le produit est indisponible. Et que ce dernier a été acheté il y a 20 minutes. Puis revenir quelques minutes après... et dire que qu'il reste un produit en stock. Autre méthode, évoquer trois fois le principe de rareté dans une phrase. Exemple, en exclusivité, représentation exceptionnelle, Dernière soirée. Autre méthode, l'intimidation en poussant à l'achat immédiat. Exemple 1, un concessionnaire prévient que si le client part du magasin, la proposition ne tient plus. Exemple 2, une société de photographie peut très bien dire à sa clientèle « Des limitations de stock nous obligent à brûler dans les 24 heures les photos invendues, pressant les parents à acheter le plus vite possible. » Exemple 3, une société d'aspirateurs peut très bien vous dire « Si vous décidez après coup d'acheter l'appareil, je ne peux pas revenir vous le vendre. » Le but étant de ne pas laisser le client réfléchir et de le précipiter dans l'achat. Une autre escroquerie qui a été réalisée aux États-Unis, il s'agissait de sociétés qui extorquaient des centaines de millions d'euros par an en utilisant des noms de grandes vitrines et incitaient des gens à mettre leur argent dans des placements. Ils arrivaient parfois à prendre toutes les économies des personnes. Ils opéraient souvent en trois temps. Premier temps, la prise de contact par téléphone. Ils se présentaient en tant que société de confiance avec une adresse et demandaient aux clients de recevoir la publicité de la société. Deuxième temps, annoncer qu'il peut se faire des grands profits mais que l'investissement n'est plus possible. Troisième temps, rappeler de donner la possibilité d'investir sur le champ. La réactance est psychologique. Le principe de rareté repose sur la manie de raccourci. Sachant que les choses difficiles à avoir sont plus intéressantes, la rareté est donc de bons conseils généralement. Le principe de rareté joue aussi sur la sensation de liberté. Préserver nos privilèges est le fondement de la théorie de la réactance psychologique. Lorsqu'un objet quelconque se rarifie ou que quelques autres causes nous empêchent de l'obtenir, nous réagissons contre ces forces contraires en désirant et en recherchant davantage cet objet. À 3 ans, l'enfant fait une crise d'opposition. Une expérience a été mise en place, 2 jouets pour enfants dans une pièce, 2 barrières différentes pour séparer les objets. La première barrière de 30 cm et la deuxième barrière de 60 cm. L'enfant placé dans ce dispositif va aller tout de suite vers l'objet situé derrière la barrière de 60 cm. L'accès lui étant bloqué, sa liberté étant entravée, le principe de rareté est mis en place. En explorant les limites extrêmes de sa liberté, et du coup de ses parents, il faut donc que l'information des parents soit parfaitement cohérente. À 2 ans, l'enfant se perçoit comme un individu, une identité distincte. L'adolescent s'intéresse également aux droits qu'il a le sentiment d'acquérir en tant que jeune adulte. Roméo et Juliette finit par un suicide des 2 adolescents car leur amour étant interdit, le principe de rareté plus l'impuissance plus le désir a poussé à la mort des jeunes adolescents. L'opposition parentale renforce l'amour du couple. Quand l'opposition faiblit, la relation refroidit. Une entreprise américaine vanta la gente féminine sur le long chemin parcouru à l'encontre du régime phallocrate qui veut une femme convenable et réservée, les encourageant à fumer. Le plus touché par cette campagne fut l'adolescent pour les 2 enfants de 2... Excusez-moi... Le plus touché par cette campagne fut l'adolescent pour les 2 enfants de 2 ans et les adolescents... Non, ça n'a aucun sens. Ok, je passe. La réaction psychologique traverse leur expérience de vie comme un torrent. Je viens de dire n'importe quoi. Le 1er juin 1982, en Géorgie, à Kensow, une loi obligeant tous les adultes à posséder une arme à feu et des munitions sous peine de 6 mois de prison et d'une amende de $200 provoquait une retenue de la part des citoyens. Les seuls clients des armureries étaient des étrangers attirés par les armes. Seulement 2 à 3 personnes sur 5000 de Rensau venaient acheter des armes. Seules les lois qui ne restreignent pas la liberté sont acceptées. Pareil pour les lessives contenant du phosphate. Une interdiction au phosphate entraîna un mouvement de contrebande et poussa les consommateurs à voir le phosphate comme meilleur qu'avant. Quand notre liberté se trouve limitée dans un certain domaine, nous ressentons un désir accru d'obtenir les objets qui nous sont devenus inaccessibles. Alors qu'il s'agit souvent d'une réactance psychologique, qui nous fait désirer davantage. La faculté d'obtenir, d'emmagasiner et de gérer l'information est de plus en plus un facteur de richesse et de pouvoir. La censure provoque un désir d'obtention et de voir l'objet de la censure de façon plus positive qu'avant. Quand des étudiants de l'Université de Californie du Nord apprirent qu'un discours contre la mixité des cités universitaires avait été interdite, l'opposition à la mixité fut annulée. Exemple 1. L'université de Purdue soumettait à ses étudiants des publicités pour romans. 50% reçurent des pubs avec une mention de censure, interdit au moins de 21 ans, et 50% aucune mention de censure. Quand on demandait leur ressenti, ceux qui avaient eu une mention de censure désiraient davantage lire le livre et croyaient que le livre leur plairait. L'opposition à l'autorité adulte commence à 12-13 ans. Limite l'accès aux livres porno, accentue le comportement transgressif. Il n'est pas nécessaire qu'une information soit censurée pour que nous lui attachions plus de valeur. Il suffit qu'elle soit rare. Conformément au principe de rareté, elle devient donc plus persuasive si nous pensons ne pas pouvoir l'obtenir ailleurs. Une info exclusive, une info persuasive. Timothy Brock et Howard Fromkin réalisèrent une expérience avec un directeur de supermarché. Des vendeurs appellent des clients et placent une offre de viande de bœuf de trois manières différentes. La première manière est une présentation ordinaire avec une prise de commande. La deuxième manière, une présentation ordinaire avec une annonce que l'offre allait être réduite dans les mois à venir. Et la troisième manière, une présentation ordinaire plus expliquer que l'annonce n'était pas publique. Résultat, la première manière eut un chiffre d'affaires normal. La deuxième manière eut un taux de vente multiplié par 2. Et la troisième manière eut un taux de vente multiplié par 6. Je rappelle, la troisième manière étant une présentation ordinaire et une explication comme quoi l'annonce était secrète. Un taux de vente multiplié par 6. Autre principe, les conditions optimales. Stephen Worshell, étude sur la préférence des consommateurs, propose une boîte de biscuits au chocolat à des consommateurs et leur demande leur avis. D'abord une boîte de 10 uniquement, puis une boîte de 2 uniquement. Et à la suite, une boîte de 10 qui se réduit à 2. Le passage à une situation d'abondance à une situation de rareté produisait une réaction nettement plus positive. La rareté subite est la plus importante. James C. Davis affirme que les révolutions se produisent quand une période d'amélioration économique est suivie d'un revirement brutal. Ce ne sont donc pas les classes opprimées qui se révoltent pensant que cela fait partie de l'ordre naturel des choses, mais celles ayant bénéficié d'une vie meilleure. Quand elles ont pris pour acquis ce mode de vie, sa disparition fait subir un grand sentiment de révolte. La rébellion de Dor à Rhodes, à Islande au XIXe siècle, la guerre de succession et les émeutes raciales des années 1960, s'expliquent par les trois siècles passés par les Noirs dans la servitude et la misère, et nous posent ainsi la question « Pourquoi se révoltent-ils maintenant ?» La réponse est que les 20 années qui suivaient la Deuxième Guerre mondiale avaient amélioré considérablement le mode de vie de la population noire. En 1940, les revenus noirs étaient à 50% inférieurs à ceux des blancs. 15 ans après les lois fédérales, qui avaient amélioré leurs conditions et fait passer leurs revenus à 85% de celui des blancs, fit qu'en 1962, le revenu était retombé à 74% et impliqua un recul par rapport au niveau atteint dans les années 1950. Les émeutes de Birmingham en 1963 expliquent ce phénomène et le soulèvement à Watts Newark à Détroit. Ainsi, quand il s'agit de liberté, il est plus dangereux d'en avoir donné pendant un temps que de n'avoir jamais rien accordé. Ainsi, il est dangereux pour un gouvernement d'améliorer le statut politique et social d'un groupe opprimé depuis longtemps. Car si ces libertés acquises reculent, le prix à payer sera particulièrement violent. Autre exemple, après les décennies de répression, Mikhail Gorbatchev commença à accorder à son peuple de nouvelles libertés et de nouveaux droits, via la politique du glanost et de la perestroïska. On rappelle que le glanost permettait une liberté d'expression et une transparence en 1986 suite à l'accident de Tchernobyl, et la perestroïska développait la communication. L'état-major et le KGB se soulevèrent, plaçant Gorbatchev en résidence surveillée. Reprise du pouvoir le 19 août 1991 et restauration de l'ordre ancien, car il était évident que les Russes, fidèles à leur histoire, allaient revenir à leur véritable manière d'être et engendrera un soulèvement de la population. Soulèvement de barricades, affrontement des forces armées et encerclage de tanks. On ne renonce pas à des libertés fraîchement acquises sans en découdre. Les parents qui ne fassent qui de façon incohérente accordent des droits et font respecter certaines règles invitent leurs enfants à la rébellion, car ils établissent inconsidérément des libertés nouvelles. Si l'on interdit puis accorde quelque chose, la règle ne sera pas respectée par l'enfant. La situation deviendra explosive, car l'enfant perd un droit, au lieu d'en être privé. On revient aux biscuits en chocolat. On revient aux biscuits en chocolat, on désire davantage quelque chose qui est devenu inaccessible, que quelque chose qui a été en quantité limitée. La discipline molle subit des enfants rebelles. Alors je répète parce qu'elle est importante celle-là. La discipline molle subit des enfants rebelles.
Qu'est-ce le que prince. Une discipline molle.
Bah une discipline molle, c'est tu vas imposer certaines règles à ton enfant, puis je sais pas, 2 mois plus tard, tu vas lever l'interdiction ou tu vas lever le. D'accord. Tu vois, c'est ça, être mou, quoi. Tu vas imposer quelque chose, 2 mois plus tard, ça va être autre chose.
D'accord.
T'as pas de cohérence. L'enfant, il sera paumé, du coup. Psychologiquement, il va. Quand tu vas revenir sur tes propos, il va plus voir ça comme une privation de liberté que comme perdre un droit. Enfin, il va se matrixer tout seul, il va se dire au secours, je suis un esclave, je suis un prisonnier, quoi.
Ok. Très
bien. Voilà. Le principe de pénurie est encore plus prononcé et suscite davantage de valeur quand l'objet est désiré par d'autres enfants que lorsqu'il s'agit d'une erreur de stock. Ceci met en évidence l'importance de la compétition dans la recherche de ressources limitées. Non seulement nous désirons davantage un article quand il est rare, mais encore plus lorsque d'autres le veulent. Le sentiment d'être en compétition pour des ressources rares est une importante source de motivation. L'ardeur d'un amoureux tiède apparaît quand il y a un rival. Deux prétextes pour des acheteurs fortunés qui fonctionnent bien, un innovateur d'un autre état qui achète pour des raisons fiscales, et un médecin et sa femme viennent s'installer en ville. Attention tout de même à l'aveuglement du caractère compétitif, car les hommes, comme les poissons, perdent la notion de ce qu'ils veulent et se mettent à happer tout ce qui se dispute. Exemple 1, en 1973, Darry Dailer, président des nouvelles programmations de la chaîne ABC, paya 3,3 millions de dollars les droits de diffusion pour le film L'aventure de Poséidon. Il perdit 1 million de dollars à cause de la remise aux enchères du film. Un effet boule de neige entraîna des enchères à perte et fait perdre 1 million de dollars à Darry Dailer. Cela s'explique par une vente aux enchères privée qui donna l'impression à Darry Dailer de mettre la main sur quelque chose de secret et d'inconnu de tous. En règle générale, chaque fois la fièvre retombée, nous voyons au vaincu un air vainqueur et nous devons nous intéresser aux conditions qui ont fait monter la température. Bien souvent, il s'agit d'une situation de compétition pour une ressource limitée. La plus grande prudence est à observer devant cette diabolique combinaison de rareté et de rivalité. Pour dire non à ce problème-là, il faut que lorsqu'il y a une situation de rareté et que cela obscurcit notre réflexion, il faut se dire qu'on se laisse prendre par la folie ambiante, emporté par la course, et que la logique passe par la fenêtre. Exemple 1, Robert Cialdini avait un ami qui s'appelait Richard, qui pendant ses années étudiantes s'amusait à vendre des voitures. Donc il achetait des voitures d'occasion par l'intermédiaire de petites annonces. Pour cela, il fallait connaître 3 choses. 1, il fallait s'y connaître en voiture afin d'acheter bas et revendre plus. Deuxièmement, il fallait rédiger une annonce qui suscitait l'intérêt. Et troisièmement, une fois en face à face, il fallait connaître le principe de rareté pour susciter chez l'acheteur un désir de cette voiture. Non pas l'utilité de la voiture, mais le désir de la voiture. Un désir bien évidemment excessif. La technique consistait à donner rendez-vous à plusieurs personnes à la même heure. Ceci créait une atmosphère de compétition autour d'un produit à la disponibilité limitée. Le premier client sera automatiquement agacé par la présence du deuxième. Et la technique la plus sournoise étant de laisser mijoter quelques minutes quand le premier et le deuxième acheteur sont là. Et si le premier client ne se sera pas décidé à l'achat de la voiture, l'arrivée du troisième client engendra à coup sûr la destruction de la résistance du premier acheteur. Deux choses analysées dans cette situation. Premièrement, la réaction émotionnelle interdit la pensée cohérente. Et deuxièmement, le désir de possession l'emporte sur l'utilité de l'objet. On en revient à l'exemple des biscuits. Les biscuits rares n'ont pas meilleur goût. Et aucune résistance si votre fille fréquente un abruti. L'absence de résistance tuera le désir de votre fille. Épilogue, l'influence instantanée, un consentement primitif à l'ère de l'automatique. Chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, disait Milkwe. En tant qu'humain, notre machine mentale est sans aucun doute considérablement plus puissante que celle des dindes ou de n'importe quel animal. Nous disposons d'une incomparable capacité de tenir compte d'une multitude de faits et donc prendre des décisions judicieuses. C'est cette supériorité dans le traitement de l'information qui a fait de l'espèce humaine l'espèce dominante. Bien que la précipitation nous oblige à nous limiter à des réactions automatiques qui sont réciprocité, cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité et rareté. Cependant, dans certains domaines scientifiques, la physique par exemple, la connaissance double tous les 8 ans. Alvin Toffler, futurologue, parle du choix du futur. Dans notre société moderne, le développement des télécommunications et de l'informatique donne accès à une quantité vertigineuse d'informations. Les smartphones, Internet, nous amènent à des positions d'animaux inférieurs, car notre équipement mental est incapable de maîtriser la complexité et la richesse de l'information numérique que nous avons créée à notre propre insuffisance. Nous avons donc créé notre propre insuffisance. Nous pouvons rarement nous offrir le luxe d'une analyse approfondie. Très souvent, quand nous prenons une décision, nous n'utilisons pas toute l'information disponible. Pour se défendre contre les professionnels de la persuasion, utilisez l'assaut de force. Ce sont nos alliés et non des ennemis dans un système d'échange souple et efficace. Les cibles des contre-attaques sont la falsification, la contrefaçon et la désinformation des signaux qui provoquent naturellement nos réactions automatiques. L'ennemi déclaré étant les enquêtes, entre guillemets, dans lesquelles des acteurs jouant les consommateurs vantent le produit. Refuser les amorçages de pourboire, prendre garde aux files d'attente trompeuses devant les boîtes de nuit, utiliser la menace, le boycott, l'accusation, la censure, la harangue. Faire la guerre aux exploiteurs, lutter contre la malhonnêteté qui réalise des profits en utilisant les raccourcis incertains de votre mental. J'ai fini.
Boum. Eh ben merci, Voro. Sacré condensé.
Ouais. Et alors c'était ultra dur parce que j'ai fait des fautes de frappe et tout, fallait que je remixe des phrases, fallait rectifier des phrases qui étaient mal écrites et tout. Enfin, voilà.
Alors,
c'était pas ouf, mais...
Si, c'était cool, merci. On va passer aux échanges et aux questions. Juste avant, je vais relancer le bot, histoire de faire deux podcasts séparés. Profites-en pour aller boire un truc.
Ouais, merci.